VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 18h à Bamako et à Abidjan. Dans 10 minutes, le magazine L'Amérique et vous. Mais auparavant, voici notre journal d'information. Au Mali, au lendemain d'un attentat meurtrier qui a touché Bamako, c'est un camp de l'ONU à Kidal, bastion de la rébellion, qui a été hier la cible de tirs de roquettes et d'obus. Une trentaine de tirs, bilan un mort parmi les soldats et une dizaine de blessés. Ces tirs ont également tué deux enfants, selon la MINUSMA. Le gouvernement malien promet de ne pas céder à la peur et de punir les responsables. Saaloua Jaafari.
Nous sommes debout, ce sont les mots du président Ibrahim Boubacar Keïta en réponse à cette nouvelle attaque sanglante. Les auteurs ont échoué et ils échoueront à créer la peur, a-t-il ajouté. Pourtant, c'est indéniablement une atmosphère d'appréhension palpable qui règne dans la capitale après un week-end particulièrement violent. Rappelons qu'un autre attentat avait été perpétré au cœur de la capitale dans la nuit de vendredi. 5 personnes, dont 3 occidentaux, avaient été abattues par un commando armé qui a attaqué un restaurant d'une rue très animée de Bamako. Une attaque revendiquée par Al-Mourabitoun, le groupe djihadiste de l'Algérien Mourtar Belmourtar. La chasse aux responsables est en tout cas ouverte, l'enquête est lancée. Une magistrate de la section antiterroriste du parquet de Paris, accompagnée de 10 policiers français, est arrivée dans la nuit d'hier à Bamako pour participer à l'enquête. De son côté, le gouvernement presse la rébellion à dominante Touareg du nord du pays de paraffer l'accord de paix est déjà signé le 1er mars à Alger dans le camp gouvernemental afin qu'il constitue une base réelle pour la stabilisation du pays.
Guerre contre le groupe terroriste Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Les armées nigériennes et tchadiennes ont repris la ville de Damasak et 200 combattants du groupe extrémiste auraient été tués. Ni le gouvernement, ni l'armée du Niger, dont c'est la première incursion en territoire nigérian, n'ont pour l'instant fait de déclaration sur ce succès dans la lutte contre Boko Haram. Plus d'explications avec Michel Joseph.
La prise de Damasak, à environ 10 km de la frontière nigérienne, constitue le premier succès majeur de cette offensive conjointe. Une source militaire tchadienne que cite l'agence Reuters fait aussi état de la reconquête de la localité de Malam Fatouri sur la frontière. Côté bilan, diverses sources font état d'au moins 200 militants islamistes tués, de même que 10 morts et 20 blessés parmi les soldats tchadiens. Des chiffres qui n'ont pas été confirmés de sources indépendantes. L'offensive en cours s'opère avec le feu vert du Nigeria, a tenu à préciser le général Chris Olukolade, porte-parole militaire nigérian.
Nous estimons que tout ce qui se déroule en ce moment se fait de concert avec ce que nous faisons pour chasser les terroristes.
L'offensive a commencé au lendemain de l'annonce par le leader de Boko Haram, Aboubakar Shekau, de son allégeance au groupe État islamique, un développement sans aucune importance pour l'armée nigériane, a déclaré le général Olukolade.
Cela n'a aucune signification pour nous. Notre opération en vue de les chasser du Nigeria se poursuivra.
L'armée nigériane tente de reconquérir les zones sous contrôle de Boko Haram en vue d'y permettre la tenue des élections générales prévues le mois dernier, mais reportées au 28 mars.
L'allégeance du groupe islamiste nigérian Boko Haram au mouvement djihadiste État islamique est d'abord une opération de propagande qui pourrait évoluer plus tard vers une véritable coopération, selon des experts interrogés par l'AFP. En annonçant dans un enregistrement audio mis en ligne samedi son allégeance au calife des musulmans, le chef de Boko Haram, Aboubakar Shekau, a conclu des manœuvres d'approche entre les deux mouvements djihadistes entamés depuis longue date. C'est quelque chose qui était en gestation depuis au moins 9 mois, assure à l'AFP Peter Pfann, directeur du programme Afrique du Centre de réflexion Atlantic Council à Washington. En fait, les deux groupes ont besoin d'un effort de propagande, ajoute-t-il, afin de soutenir le moral de leurs troupes qui subissent des revers dans leur campagne militaire. Une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies est attendue demain à Bangui pour une visite de 36 heures en République centrafricaine. Des rencontres sont prévues avec les autorités de la transition, avec les hauts responsables de la mission de l'ONU, mais aussi avec les organisations non gouvernementales. Félix Yepassis Zembrou a joint le porte-parole de la MINUSCA, Amadou Touré.
C'est une visite dans un pays qui est en train d'essayer de sortir d'une crise profonde, mais également une mission qui a commencé à travailler il y a 6 mois. Donc une visite aux autorités centrafricaines, mais aussi à la mission qui est sur le terrain ici, que le Conseil de sécurité a déployée ici, et à laquelle il a confié 3 missions principales, à savoir la protection des civils, l'accompagnement du processus politique, mais également l'appui à l'extension de l'autorité de l'État sur tout le territoire. Oui. Donc c'est une visite à double niveau, voir un peu ce que les autorités centrafricaines sont en train de faire, mais également le travail d'accompagnement de la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation de la Centrafrique.
Cette délégation aura-t-elle l'occasion de discuter avec les autorités de la transition du problème de sécurité, enfin de justice?
Vous savez, c'est le Conseil de sécurité lui-même qui a les prérogatives de son agenda et du contenu de ses discussions. Des rencontres sont prévues naturellement avec les autorités centrafricaines, notamment avec la chef de l'État de la transition, Madame Catherine Samba-Panza, et bien sûr le CNT, c'est-à-dire le Conseil national de transition, qui sert de parlement en ce moment.
Amadoune Touré, le porte-parole de la MINUSCA. Le Fonds monétaire international est impressionné par les progrès de la République démocratique du Congo, mais le FMI estime que Kinshasa doit encore néanmoins fournir de gros efforts pour maintenir la stabilité économique et lutter contre la pauvreté.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Et dans le reste du monde, en Irak, le groupe extrémiste État islamique a exécuté 20 personnes qui voulaient s'engager dans une milice combattant les djihadistes dans la province septentrionale de Kirkouk. C'est ce qu'ont indiqué lundi les autorités irakiennes. Leur mise à mort n'a pas pu être confirmée indépendamment, mais elle a été illustrée par une série de photos très crues diffusées sur Internet. Le général Martin Dempsey, le plus haut gradé américain, est arrivé lundi à Bagdad pour s'entretenir avec les responsables irakiens après le lancement d'une vaste offensive pour reprendre Tikrit au groupe État islamique. C'est ce qu'a constaté un journaliste de l'AFP sur place. Et toujours dans la lutte contre l'État islamique en Irak, l'armée américaine ne prévoit pas une offensive aérienne tous azimuts de la coalition internationale contre l'organisation djihadiste, et ce, en dépit des appels à l'aide de Bagdad. C'est ce qu'affirme le chef d'état-major interarmé américain alors que l'armée irakienne fait face à une forte résistance des insurgés dans le nord du pays. Le point avec Morgane Guériec.
Larguer un tapis de bombes sur l'Irak n'est pas la solution, a déclaré le général Martin Dempsey en tournée dans le Golfe. Séjour au cours duquel il doit notamment se rendre à Bagdad. Comme le souligne l'AFP, le chef d'état-major interarmé américain a plaidé pour une patience stratégique. Nous avons la responsabilité d'être très précis dans l'usage de notre puissance aérienne, a expliqué le général Dempsey, assurant qu'augmenter le rythme des raids accentuerait le risque pour les populations civiles, ce qui pourrait alimenter en retour la propagande djihadiste. Rappelons que de son côté, le gouvernement irakien mène depuis une semaine une offensive massive contre l'État islamique afin de reconquérir Tikrit, située entre la capitale Bagdad et Mossoul, la plus grosse ville contrôlée par les djihadistes.
Direction l'Ukraine, où l'armée a dénoncé ce lundi une attaque rebelle avec des mortiers et des chars contre ses positions à 10 km du port stratégique de Marioupol, au sud de la ligne de front dans l'est rebelle de l'Ukraine. L'attaque vise le village de Chirokine, à l'est de Marioupol. C'est la dernière grande ville sous le contrôle de Kiev dans la zone du conflit. La prise de ce port serait une étape clé dans la création d'un pont terrestre entre la Russie et la péninsule ukrainienne de Crimée, annexée il y a 1 an par Moscou. Enfin, les États-Unis ont envoyé plus de 100 équipements militaires lourds, notamment des chars et d'autres véhicules de combat, aux 3 ex-républiques soviétiques baltes pour renforcer leur capacité de défense et dissuader les Russes d'éventuellement les menacer, a déclaré à l'AFP lundi à Riga le général américain John O'Connor. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous dans 20 minutes pour la prochaine édition du Monde d'aujourd'hui présentée par Salwa Jaafari et Chérubin Dorsil. Tout de suite, l'Amérique et vous. Bonne soirée à l'écoute de VOA Afrique.